Vous écoutez RTL. 11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Bonjour les amis, bonjour à tous. Bienvenue sur RTL, RTL vous régale. C'est parti jusqu'à midi et demi de la cuisine, mais pas que, à la radio, des infos, de la conso, du caddie. Au frigo, bah oui, j'adore les rimes, voilà, je suis comme ça. Alors parlant de rimes, je vous présente nos poètes, auteurs d'une pléiade de livres de cuisine, dont Fondant de plaisir.
Oui, c'est moi,
c'est un vrai titre, hein,
oui,
avec, avec des vrais morceaux de bonheur dedans.
Oui,
la reine des ménagères, Nathalie Elal.
Bonjour à tous.
Bienvenue Nathalie. Auteur du grand guide des produits Made in France, de la cancoyote au pain à un sou, en passant par le Menchikov.
Ou l'Orkina.
Qu'est-ce que c'est ?
L'Orkina, c'est une boisson absolument magnifique de Carcassonne.
Mesdames et messieurs,
qui est faite avec du vin blanc et de l'orange.
Jean-Sébastien Petit-Demange vous dira tout sur ses escales de rêve.
Bonjour.
Notamment,
bonjour à tous.
On part pour quelle destination d'ailleurs tout à l'heure, juste un peu après-midi ?
Je vous emmène à New York.
Comme vous y allez, Jean-Sébastien.
Ça vous tente ?
L'histoire d'un plat, l'histoire de quoi aujourd'hui, Nathalie ?
Le cannelé, avec un seul N.
Ce sera tout à l'heure en fin d'émission. Vous écoutez RTL, vous régale. Et nous sommes en direct jusqu'à midi et demi si vous voulez réagir dans cette émission. Si vous avez des recettes, si vous avez des spécialités locales, des traditions familiales, régionales, n'hésitez pas. Appelez le 3210 pour tenter de coller Jean-Sébastien ou Nathalie. Il y a des guides du routard et des montres RTL à gagner par téléphone 3210, par SMS 64 900 avec le mot régale. Alors vous savez qu'on aime bien jouer au petit jeu des associations dans cette émission. Aujourd'hui, on a choisi d'associer le poisson blanc et la poire. Ça peut surprendre, je le dis depuis hier. C'est vrai que c'est une association assez peu connue.
Oui, mais en fait, il y a certains poissons comme la lotte, le turbo ou d'autres encore qui sont cuits en papillote avec des poires qui sont donc en dés, en lamelles, rôties ou compotées. Et ça va apporter une touche de fraîcheur et d'acidité et surtout un jus abondant qui ne va pas alourdir le poisson comme une sauce. Mais la plus belle association, mais on en reparlera tout à l'heure bien sûr, c'est un poisson d'eau douce qu'on appelle le cendre qui est servi généralement avec des poires tapées. Là encore, c'est un mystère. Qu'on éclaircira tout
absolument,
à l'heure.
Puisqu'on a lancé l'énigme tout à l'heure chez Bruno,
oui.
On vous expliquera tout. Alors, j'aime bien apprendre des choses dans cette émission. Moi, je suis comme vous qui écoutez RTL cet été. On n'est pas obligé d'être un grand cuisinier. On n'est même pas obligé de faire la cuisine à la maison pour aimer cette émission. Le but, c'est aussi de vous raconter des histoires. Parce que la cuisine, c'est ça aussi. Saviez-vous, par exemple, que le poisson est un cryptogramme, une espèce de code secret.
Exactement, parce qu'au 1er siècle de notre ère, les chrétiens, qui étaient persécutés par les autorités romaines, utilisaient le poisson comme un code secret pour se reconnaître. Alors pourquoi un poisson ? Eh bien parce qu'en grec, poisson se dit uctis. Et ce mot est constitué par les initiales de la phrase « Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur » en grec. Mais je ne vous parlerai pas grec, bien évidemment. Ce matin, je ne le connais pas.
Non, par contre, on va manger grec dans les prochains jours parce que...
Kebab ?
Ouais, non, pas du tout. Du vrai grec, je vous en parlerai dans l'émission. C'est vrai, Jean-Sébastien, qu'on mange du poisson depuis la nuit des temps.
Confucius disait « Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. »
C'est énorme.
Et c'est vrai que on a mangé. Merci.
Jean-Sébastien Petit-Demange a dit Confucius, il l'a cité.
Aristophane, lui, raconte. Vous imaginez quand même réussir à caser Confucius et Aristophane
voilà.
Dans la même
il
séquence.
Il manquait juste Angelo Brandoir.
Aristophane lui raconte dans son œuvre Les Chevaliers qu'un marchand d'Athènes a su conquérir une popularité absolument immense en baissant le prix du poisson et en distribuant la ciboule pour les assaisonner. Et le poisson, ça a toujours été une histoire d'amour et de désamour avec l'humanité. Parce qu'on a considéré pendant des siècles que le poisson était l'aliment qu'on mangeait si on ne pouvait pas manger de viande. C'est dans tous les interdits alimentaires, dans toutes les restrictions, les jeûnes, les jours maigres, etc. Et puis, au sortir de la guerre, par exemple, les Français ne voulaient plus en manger du poisson parce qu'il fallait absolument manger de la viande. Le poisson, on retrouve dans les écrits, dans les chroniques de l'époque, que le poisson était indigeste, lourd, et qu'il fallait absolument le remplacer l'aliment carboné par de la viande. Bon, aujourd'hui, on est en pleine période de surpêche, on ne parle que de ça.
Produit de luxe aujourd'hui.
Produit de luxe ou pas, parce que il y a des poissons qui sont pas chers. Il y a effectivement le turbo,
ça coûte une blinde. Non mais quand vous citez le turbo, la lotte, etc.
Les poissons poissons bleus, par exemple, sont des poissons qui sont très peu chers. Les poissons de rivière sont tellement peu consommés qu'on ne les trouve pratiquement plus sur les marchés.
Je peux faire une parenthèse, c'est quoi un poisson bleu ?
Les poissons bleus, c'est les maquereaux, c'est les sardines, c'est le, tout ce qui est poisson les anchois, les poissons avec beaucoup d'oméga 3. Et les poissons blancs, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et c'est vrai que tout cela fait qu'aujourd'hui, dans les 30 000 espèces de poissons qu'il y a dans les mers et dans les rivières, on en consomme en France 34 kilos par an et par habitant. On n'a jamais autant consommé de poissons qu'à l'heure actuelle, et c'est bien ou pas bien, ça je ne sais pas, mais en tout cas c'est un problème.
Il est frais mon poisson, il est frais dans RTL vous régale.
Il manque tellement frais qu'on... le citron là. Hein.
Absolument, mais on consomme, il est tellement frais qu'on en consommait déjà dans la Rome antique.
Oui, alors dans les halles de la Rome antique, en effet, il y avait des poissons, des crustacés et des coquillages de toutes espèces qui attendaient les clients dans d'immenses bassins qui étaient reliés par des canalisations aux aqueducs qui alimentaient la ville ou bien même remplis d'eau de mer venue spécialement d'Ostie. Mais les riches romains, eux, avaient quand même la chance de posséder leur propre vivier. Et cette même bonne habitude, elle a été reprise par les aristocrates français et les monastères pendant des siècles parce qu'ils développaient la pisciculture dans des étangs artificiels. Alors, il faut dire qu'à l'époque, à l'inverse d'aujourd'hui, la majorité de la population connaissait surtout les poissons d'eau douce et souvent le poisson de mer. C'était pour eux synonyme de poisson fumé ou salé. On consommait beaucoup à l'époque de hareng, ensuite de la morue, ensuite sardine et thon. Et seule la cour, les grands seigneurs et les couvents parisiens avaient les moyens de passer des contrats avec ce qu'on appelle des chasse-marées pour être livrés en poissons de mer frais à 14 km/h en 1700. Vous imaginez un peu le luxe pour le chasse-marée. Et souvenez-vous d'ailleurs, il y a une anecdote très célèbre de l'histoire de la cuisine. Vatel, le fameux maître d'hôtel du prince de Condé, qui s'est passé une épée en travers du corps parce que la marée n'arrivait pas, ou seulement deux petites charrettes qui étaient insuffisantes pour nourrir les invités du prince de Condé à Chantilly, où était organisée une somptueuse réception.
Fakir, fils de fakir, arrière-petit-fils de fakir. Ce qu'il faut raconter, c'est qu'en fait, la révolution du chemin de fer, en réalité, a démocratisé la consommation du poisson. En fait.
Et l'invention du frigorifique, surtout, ça a mis effectivement le poisson de mer à portée des villes. Et au XXe siècle, bien sûr, la surgélation et le développement vont augmenter l'offre. Et puis, bien sûr, dans les années 80, la pisciculture marine va débuter en France. Il y aura le bar, la dorade royale, le turbo, le maigre et le saumon. Et aujourd'hui, hélas, les trois quarts du poisson que nous mangeons sont importés.
Ah oui, c'est dommage de devoir constater ça. C'est vrai que souvent, ce qu'on mange aujourd'hui en France, 34 kilos par an et par habitant, ne vient pas spécialement que de France, mais de partout ailleurs.
86% des poissons sont importés du reste du monde. Du coup, ça donne effectivement... Alors, quand on parle beaucoup de surpêche, je vous le disais il y a deux secondes, c'est vrai qu'il y a 10 millions de tonnes de poissons qui sont rejetés à la mer dans tout ce qu'on pêche. Alors, c'est beaucoup moins qu'il y a 20 ans, mais c'est simplement pour une bonne et simple raison, c'est qu'on en a déjà tellement pêché et tellement rejeté qu'il y en a de moins en moins.
Poisson blanc et la poire dans la deuxième partie de RTL vous régale. Bienvenue sur RTL, c'est l'été, on cuisine avec vous tous les jours entre 11h et midi et demi.
11h-12h30,
RTL vous régale.
Le poisson blanc et la poire, c'est notre choix du jour dans RTL vous régale. Alors justement, quels sont les poissons de notre consommation quotidienne qui fonctionnent bien, donc les poissons blancs, qui fonctionnent bien avec la poire, Nathalie ?
Il y a par exemple le cabillaud que vous pouvez consommer toute l'année sauf en mars, parce que généralement, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, qu'il se reproduit à ce moment-là. Alors le cabillaud, bien sûr, c'est un poisson avec une chair maigre, ferme, savoureuse et feuilletée, mais pas franchement économique, il faut bien le dire. Ça atteint des prix parfois un peu faramineux pour du cabillaud.
Les poissons les moins chers, les plus accessibles à toutes les bourses, ce serait quoi ?
Le requin marteau. ça vaut pas un clou.
Non mais sérieux, c'est quoi ? Ce serait le maquereau.
C'est
le marteau.
C'est
je l'avais pas cassé.
Le requin marteau, ça vaut pas un clou.
Il l'a fait.
Oui, mais nous avec la poire, je suis pas sûr. Hein.
Oui. C'est consternant.
Vous êtes mon maître.
Je sais. Jean-Sébastien, les moins chers, sans rigoler, deux secondes.
C'est surtout les poissons bleus.
On parle de conso, là, Jean-Sébastien.
Oui, vous avez du merlan.
Dans les poissons blancs, il y a le carrelé qui est pas cher. moins cher.
Oui, après, c'est toujours c'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est pas cher
Non, mais il y a quand même des variations de prix importantes.
Vous avez le merlan, c'est pas cher. Le lieu, on ne peut pas dire que ce soit un poisson qui est très cher. Vous avez comment ça s'appelle
Oui.
On l'a.
Le taco.
Il l'a.
Le taco, c'est pas cher non plus.
Je ne vois pas du tout ce que c'est que le taco.
Bah, c'est un poisson blanc.
Avec des portes jaunes.
Voilà, c'est exactement. C'est... On est au taquet.
Passer la nuit ensemble ou
Le mulet, c'est pas cher non plus.
Le mulet, c'est pas cher non plus.
Non.
Très bien. Merci pour ces informations essentielles, en tout cas.
Ça vous aide.
Qu'en est-il de la sole? Parce que quand on parle de poisson blanc, moi, je pense à la sole, qu'on mange toute l'année.
Alors, pour le coup, la sole, c'est très cher.
La sole, c'est hors de prix aujourd'hui.
Voilà.
Pourquoi ? Parce qu'elle est en on a surpêché la sole ?
Non, parce que c'est un poisson qui se consomme beaucoup. Vous savez, à partir du moment où on consomme beaucoup quelque chose, forcément, c'est cher.
Alors, la meilleure saison pour la sole, d'ailleurs, c'est février-mars, hein, je vous le dis.
C'est bien de signaler aussi qu'il faut manger de la sole, pêcher dans des eaux plus froides.
Oui, et puis il faut faire attention, n'achetez pas de la sole à n'importe quel prix dans les restaurants, parce que vous avez, je l'ai encore vu hier soir, vous avez des soles aujourd'hui dans les restaurants parisiens à 55 euros.
Ils ont vu la vierge.
C'est absolument scandaleux. C'est une honte.
Une association qui marche pas mal aussi, c'est deux poissons, c'est Sol Carlet. C'est pratique quand on a la dalle. Le bar, qu'en est-il du bar?
Alors, la meilleure saison, c'est de novembre à mars. Et le bar, excusez-moi, il a une chair très blanche. Maigre et fine. Mmh. C'est délicieux un bar.
Alors on rigole, on s'amuse, on fait un peu la gaudriole. Mais le carlet, qu'on appelle plus souvent la plie.
Oui, sur les téléphones, oui.
Non, les sérieux. La plie.
Oui, ben oui. Mais qu'est-ce que je vous dis de plus
on peut le manger de décembre à mars, lui aussi. Il est en forme de losange, notre carlet, enfin notre plie, avec une chair maigre qui ressemble à la sole, mais en moins fine et en moins chair, évidemment.
Moi, personnellement, dans les poissons blancs, il y en a un que j'adore quand je descends du côté d'Angoulême ou de Bordeaux, c'est le maigre. C'est un poisson absolument exceptionnel. Commencez pas à rigoler.
Je vous écoute.
Le maigre qu'on surnomme également le grogneur.
Pourquoi ?
Non pas parce qu'il a mauvais caractère, mais simplement parce que quand il fraye dans l'estuaire de la Gironde, il grogne.
Ah bon ?
Il fait un bruit très très bizarre. C'est le seul poisson comme ça.
Muet un poisson ?
Celui-là, non. Et il existe une. Il y a dans l'estuaire de la Gironde, il y a toute une population de maigres. Ce sont des poissons qui sont consommés dans cette région à chair ferme, à chair fine. C'est vraiment, si vous l'avez sur la carte d'un restaurant, quand vous êtes en Charente-Maritime ou en Gironde, goûtez au maigre parce que c'est absolument fabuleux.
Je voudrais qu'on illustre notre propos de ce matin en vous donnant une petite recette, une idée de cette association qui peut paraître surprenante. Parfois, c'est l'arrêt et la poire.
Absolument. Vous faites une raie au Capre, par exemple, il vous reste un peu de quelques feuilles, puisque c'est un poisson à effeuiller. Vous faites une effilochée.
Effilochez la raie ?
On effiloche la raie un peu froide le lendemain et vous faites une salade avec ça. Vous prenez des lamelles de poire, prenez de la comisse de préférence. Mm-hmm. C'est donc une poire d'hiver, on verra ça tout à l'heure. Vous mettez quelques tomates, un peu de coriandre, du vinaigre balsamique ou alors du vinaigre de riz. Vous mettez un jus de citron vert là-dessus, vous avez une salade en entrée. Si vous la faites un peu plus au printemps, vous pouvez faire ça avec quelques fèves ou quelques fèvettes. Vous allez voir, c'est absolument génial.
Poisson blanc et poire, si vous en cuisinez, tiens, si vous avez des recettes à nous donner ce matin, si c'est une association que vous connaissez et que vous travaillez de temps en temps, n'hésitez pas. 3210 par téléphone, le standard d'RTL vous attend par SMS 64 900 avec le mot régal. À tout de suite.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et je vous proposais en début d'émission de tenter de coller nos camarades Jean-Sébastien et Nathalie sur des spécialités qui vous sont propres, hein, qui sont locales, régionales, parfois de tradition familiale. Alors je sens Jean-Sébastien un peu tendu, comme à chaque fois. Je sens Nathalie curieuse.
Ah, toujours.
Et voici venir Jean-Marc. Jean-Marc, bonjour.
Bonjour Jean-Marc.
Oui. Oui, bonjour à tous.
Bienvenue
sur RTL. Bonjour Jean-Seb, bonjour Nathalie, bonjour Jean-Michel. Eh bien, voilà ma question. Alors, quel est le pâté autruche ?
Alors, qu'est-ce que c'est que le pâté ? Alors, autruche, vous l'écrivez comment ? En un mot, comme l'animal ou...
Alors là, c'est vous qui me collez, là, hein, par contre. Hein. J'en ai pas la moindre explication.
Est-ce qu'il nous fait courir à 60 km/h ?
Pardon ?
Est-ce qu'il nous fait courir à 60 km/h ? Non ?
Non. Il n'y a pas besoin de courir pour ramasser ce que l'on met dans ce pâté.
Alors, le pâté autruche. Une question. Est-ce qu'il y a de la viande là-dedans ?
Il n'y a pas de viande.
Ah, il n'y a pas de viande.
Vous habitez où ?
Alors, j'habite à Beaulieu-sur-Loire, c'est au bout du Loiret, tout près du Cher,
pas loin du Berry.
Voilà. Fromage, du fromage.
C'est un pâté du Berry, le pâté autruche. C'est un truc que mon pote Alain Nonnet à Issoudun m'a fait goûter une fois il y a très très longtemps.
D'où il me sort le pâté autruche?
À la cognette. Je suis incapable de vous dire ce qu'il y a dedans, mais je sais que j'ai goûté ça chez Alain Nonnet et je n'en peux pas en vous en dire plus.
Est-ce qu'il y aurait des champignons dedans?
Il n'y a pas de champignons.
Raté, toc. Jean-Marc, qu'est-ce qu'il y a dans le pâté autruche? Parce qu'on n'en peut plus.
Alors, dans le pâté autruche, eh bien, c'est tout simplement de la pomme de terre, des oignons, du persil, du sel-poivre, hein, bien entendu, de la crème fraîche, ça c'est pour les petites poignées d'amour. Hein. Et puis, bien sûr, du beurre, parce qu'on fait du pur beurre chez nous.
Et si on met un œuf dedans,
ça
devient le pâté à l'œuf de Pâques dans le Berry, non?
Non, c'est encore différent. Le pâté de Pâques, c'est un pâté avec de la viande, effectivement, mais avec des œufs durs au milieu.
Absolument, oui. Mais il y a de la pomme de terre. Enfin, on est dans le Berry.
Écoutez, moi, l'info que j'ai, c'est un pâté avec des pommes de terre, des oignons, et vous avez oublié un truc, je pense, Jean-Marc, c'est la pâte feuilletée.
Oui. Bien sûr, évidemment. Dans un pâté,
parce que sinon,
il y a forcément
ça
de la pâte
de terre.
Si on ne le dit pas, qu'est-ce qu'on fait avec notre pâté autruche? Parfait. Vous en préparez chez vous régulièrement?
Bien sûr. On m'en demande beaucoup.
Moi, je veux goûter.
Hein. Vraiment tout près du Berry, hein, comme je le disais. Et donc, y a beaucoup de gens qui m'en demandent.
Je précise que vous êtes pâtissier chocolatier, mais vous n'en vendez pas dans la boutique.
Non, alors moi j'ai pas de boutique, hein. Je suis un petit peu particulier dans ce métier. Je suis itinérant sur les marchés, sur les foires.
Ah, c'est sympa.
Je suis pâtissier chocolatier, comme vous l'avez dit, mais je fabrique tout dans mon laboratoire chez moi. Et ensuite, je pars sur les manifestations dans la région.
Très bien. À la découverte du pâté autruche de la région du Loiret.
Voilà. Alors j'en profite, si vous le permettez, Jean-Seb et Jean-Michel et Nathalie, tout d'abord de vous inviter à ma future porte ouverte que j'organise chez moi le 1er octobre.
Avec plaisir.
À l'aide d'une quinzaine de manifestants. De toute profession confondue, on aura un petit peu de tout.
Et Jean-Marc, il est venu faire sa pub, Jean-Marc, décontracté.
Il est excellent, Jean-Marc.
Hein, détendu.
Bravo. Bah oui.
Un vrai politique. Hein. Politique de l'autruche.
De pâtisserie.
Évidemment.
Voilà.
Merci beaucoup. On vous embrasse, Jean-Marc. On vous envoie un guide du routard et une montre RTL.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci pour votre appel au 3210. À bientôt,
merci
Jean-Marc.
Merci à vous.
Merci. Et ben de rien. Et j'ai envie de dire merci.
Le grand jeu RTL de l'été.
Le grand jeu RTL de l'été est de retour dans RTL vous régale avec François-Xavier qui va jouer avec nous. Bonjour François-Xavier.
Bonjour toute l'équipe.
Alors, bonjour. On est triplement ravis parce que Nathalie, Jean-Sébastien et moi, on constate qu'aujourd'hui dans cette émission, lorsqu'un auditeur d'RTL nous appelle, soit il est boulanger-pâtissier, c'était le cas de notre camarade précédent, soit il est charcutier. Voilà ce qui est votre cas, François-Xavier. Voilà.
Exactement.
Vous êtes mon dieu.
Il en faut. Hein.
J'en profite pour vous dire que vendredi, l'émission vous sera dédiée, enfin à l'ensemble de votre profession, parce que vendredi, on évoquera charcuterie et poivre. C'est vrai que c'est une association qui fonctionne bien. Qu'est-ce que vous faites vous faites des choses avec du poivre, un peu poivré chez vous?
Dans les andouillettes, on met un peu de poivre quand même.
Par exemple.
C'est quoi dans le saucisson aussi, hein, forcément.
Comment?
Dans le saucisson aussi, forcément.
Aussi, mais pas trop, hein, plus de l'ail. Hein.
C'est quoi la spécialité de votre maison à vous, François-Xavier?
Le saucisson à l'ail, le boudin noir aux pommes.
Ah, oh, bonheur.
Oh, je vous aime déjà.
Oh, bonheur.
C'est réciproque.
Ah, ne lui dites jamais. Alors, vous allez jouer avec nous et vous allez pouvoir...
cochon tous les jours.
Bien sûr. Nous. Vous allez pouvoir gagner un cadeau somptueux. Vous savez que vous jouez pour une semaine de vacances en famille avec VVF Village ou un iPhone 7 Plus. Et pour gagner un de ces cadeaux, il va falloir faire un choix. Je sais, il est cornélien. Vous allez choisir entre Christine Haas, que vous retrouvez tous les soirs sur RTL dans Quel est votre signe, ou Laurent Ruquier, l'homme des grosses têtes, tous les jours dans Les grosses têtes de l'été à 16h.
Et ben on va prendre Laurent Ruquier.
Jouez avec Laurent, bonne chance.
Bonjour, c'est Laurent Ruquier. RTL vous offre une semaine de vacances avec votre famille dans un village vacances VVF. Alors bonne semaine de vacances en famille et bel été sur RTL.
François Xavier, c'est gagné. Je ne sais pas si vous avez des enfants.
Si, j'en ai un.
Eh ben voilà, vous partirez même à 4. Vous pourrez choisir quelqu'un en plus. Une semaine de vacances à 4 avec pension complète pour retrouver la vraie vie de village grâce à VVF Village. Vous allez même, Jean-François, pouvoir choisir parmi plus de 80 villages de vacances pour passer cette semaine entre repos ou activité avec des clubs enfants pour les tout-petits jusqu'aux ados. Allez donc découvrir la vie de village sur vvf-village.fr. On vous souhaite un très bel été. Je ne sais pas si vous aviez prévu de prendre des vacances.
Si, en fin d'août, peut-être.
Eh ben voilà, ne cherchez plus, on s'occupe de tout.
Après avoir écouté votre superbe émission, merci encore.
Très bel été, et continuez à nous faire, à nous cuisiner, à nous produire des produits de qualité comme vous savez si bien le faire.
Il n'y a pas de problème.
On vous embrasse, François-Xavier, bonnes vacances
beaucoup.
À vous, au revoir.
Au revoir.
Allez, prochain rendez-vous dans l'été des grosses têtes pour le grand jeu RTL de l'été, ce sera tout à l'heure dès 16h. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3210. Vous pouvez également envoyer le mot été par SMS au 74 900. Bonne chance à tous.
Le grand jeu RTL de l'été. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Oh, je pense qu'on vous a à peu près tout dit sur le poisson blanc. On aurait pu vous donner encore beaucoup d'informations, mais je pense qu'on a fait l'essentiel du sujet. Parce que l'idéal, c'est de vous expliquer pourquoi ça match avec la poire. Et parlant de poire, c'est vrai que quand on évoque ce fruit, Jean-Sébastien, généralement, avant de parler de cuisine, on pense aux expressions. C'est vrai que dans le langage courant, dans le langage populaire, la poire, je ne sais pas pourquoi, mais...
Vous ne savez pas pourquoi?
Ça a donné lieu à des expressions populaires nombreuses.
Il y en a des pelletées de partout, des expressions avec la poire. Ça n'arrête pas. Vous avez être une bonne poire.
Oui, ça, c'est sans doute la plus connue.
C'est être naïf, mais vous savez pourquoi? On dit être une bonne poire.
Je n'en ai aucune idée.
Eh ben, c'est parce que lorsqu'une poire est mûre, elle tombe du poirier. Donc ouais. C'est le moment où elle est forcément la meilleure. Il n'y a pas besoin de grimper à l'arbre. Et depuis le 19e siècle, on dit de quelqu'un qui se laisse duper qu'il est une poire. Parce que bonne
parce qu'il tombe facilement.
Non, parce qu'il est, il est facile. Il est facile à cueillir. Il est prêt à tomber. Quoi.
Ça,
donc
ouais.
On peut lui faire croire n'importe quoi. Il va tomber dans votre escarcelle.
Sauf que
la poire, le poirier est un arbre intelligent. Si vous voulez, parce que pourquoi les poires tombent ? Eh bien, c'est parce que les poires sont mangées par les animaux quand ils sont en bas, quand elles sont en bas. Et donc, les animaux ingèrent la poire, mangent les pépins de la poire. Et donc, quand les animaux vont déféquer plus loin, le poirier se reproduit.
Ah, c'est pas idiot.
Et voyez,
il y en a là-dedans.
Il y en a dans le poirier.
Ah, bah, le poirier,
hein,
quand même.
Et pour bête, le poirier.
C'est pas idiot. Alors, il y a une expression qu'on utilise fréquemment. D'où vient-elle ? Entre la poire et le fromage.
Alors, ça c'est. Nathalie.
C'est une expression qui date du milieu du XVIIe siècle parce qu'à l'époque, on donnait aux gens une poire pour se rincer la bouche avant d'entamer le fromage. C'était un petit peu l'ancêtre du célèbre trou normand, parce qu'à cette époque, il faut bien vous dire qu'il n'y avait pas autant de légumes que ça. Et la poire, ça servait de légumes, à la fois de légumes et de rafraîchissement avant le fromage qui, lui, annonçait la fin du repas.
Il y a une autre expression qui est moins légère. Hein.
Oui, c'est avaler, l'instant grave
avaler
de
une
l'émission.
Poire d'angoisse.
Oui, c'est un petit peu sérieux. En fait, c'est médiéval, hein, parce que la pratique de la torture était évidemment et malheureusement monnaie courante dans les geôles du Moyen-Âge. Et pour ne pas entendre les hurlements des victimes, les tortionnaires leur enfonçaient dans la bouche une poire d'angoisse qui étouffait leurs cris. Et l'expression s'emploie toujours, mais dans des situations quand même un petit peu moins terribles.
RTL Royal, joie, bonheur, légèreté.
et surtout, vous savez, on a fait le rapprochement également avec les poires qui sont dans le village d'Angoisse en Dordogne, parce que les poires étaient aigres, elles n'étaient pas bonnes du tout. Elles étaient très difficiles à ingérer. Et du coup, comme ce n'était pas bon, on a appelé ça les poires d'angoisse. Et donc, tout ça a fait qu'au fil du temps, ça se retrouve dans les établissements de parisiens où on fait des choses pas très sympas.
Dans la série Au fil du temps, justement, ça remonte à très très loin, la consommation de la poire.
Oui, d'ailleurs, le poirier, c'est originaire du Moyen-Orient, peut-être même aussi du Cachemire, mais ça a poussé vraiment spontanément dans plein de zones tempérées, en fait, en Europe ou en Asie occidentale et centrale. Alors, c'est vrai que, bizarrement, les Grecs semblent avoir ignoré les poires, au contraire des Romains, qui connaissaient déjà au moins une cinquantaine de variétés. et on les consommait à l'époque crues ou cuites comme des pommes. Et les moins bonnes se transformaient déjà en poirées. Vous savez, ce délicieux nectar qu'on peut encore trouver d'ailleurs dans certains villages. Ou bien d'ailleurs en vinaigre de poire pour lequel chacun avait sa recette. Il paraît même qu'à Byzance, on se délectait de poire en gelée ou en confiture ou encore cuite au vin. Et ça, c'est toujours une recette très actuelle.
Qu'est-ce qu'on trouve comme variété de poire sur nos étals en ce moment, voire même toute l'année ?
Alors, en ce moment, surtout entre juillet et octobre, hein, vous allez trouver surtout la Guyot. Alors ça, c'est une poire assez grosse, avec une chair qui est à la fois juteuse et aromatisée. Et c'est une poire qui est jaune. Et puis évidemment, la Williams. Et on la reconnaît, cette variété de poire, à sa peau qui est brillante et mate, avec une couleur entre le jaune et le vert très harmonieuse, très élégante.
La France est le cinquième producteur européen de poire, Jean-Sébastien.
On en fait 125 000 tonnes en France. On en fait 1 500 000 tonnes, grosso modo, en Europe. Et les Français en ont fait le sixième fruit le plus consommé en France. Alors, c'est vrai que, Nathalie l'a dit, on connaît la Guyot, on connaît la Williams, il y a la Comice, il y a la Beurre-et-Hardy, mais il y a des poires. Et il y a notamment une association qui est absolument géniale, qui est l'association des croqueurs de poires, qui protège dans toute la France les poiriers anciens. Et je peux vous assurer que quand on découvre ces poires qui s'appellent la poire de Livre, qui s'appelle la bergamote de Parthenay, le beurre d'Apremont, la poire à boulettes, la comtesse de Paris, la sansnelle, la bergamote d'hiver, la grand queue, l'île verte ou la belle de Vitry, on part dans un monde absolument extraordinaire que celui des poires. Il est une seule poire qui a une indication géographique protégée, parce que les Savoies, les deux départements de la Savoie ont décidé il y a très longtemps de faire labelliser leurs pommes et leurs poires. C'est donc l'IGP Poires et Pommes de Savoie depuis 1996.
Alors, vous étiez peut-être avec nous tout à l'heure en fin de matinée chez Bruno Guillon et Caroline Diamant. On leur a lancé une petite énigme, et à vous aussi. L'idée était de savoir ce que voulait dire une poire tapée.
Qu'est-ce que c'est ? C'est une très ancienne histoire, en fait, parce que de retour des croisades, les paysans ont appris à conserver les fruits en les faisant sécher, à commencer par les prunes. Et ils ont transposé en fait cette technique aux fruits locaux qui étaient les poires et les pommes. Alors, c'est une activité qui a duré très longtemps, qui s'est un peu arrêtée entre les deux guerres mondiales. Mais à la fin des années 80, il y a des passionnés, heureusement, qui ont fait revivre la tradition des poires tapées. Alors, les poires, comme on dit en vieux parler tourangeau, parce que ça se passe là-bas, elles sont épluchées, posées sur des clés avec la queue en bas, et puis placées plusieurs jours dans des fours chauffés au bois. Et ensuite, on va les aplatir à l'aide de la platissoire pour parfaire la déshydratation. Et c'est un instrument évidemment spécifique. Ensuite, on les place en chambre de chauffe avant de les conditionner.
Voilà, et on les consomme aujourd'hui réhydratés, trempés dans du vin de Loire.
De l'hippocrase. Oui, c'est un vin au miel et aux épices, très ancien, c'est délicieux.
On les met dans de l'eau de vie, on les met cuites dans un sirop de sucre et de cannelle. Voilà, oui. Tout simplement délicieux.
Et on les mange avec du cendre.
Ça fonctionne de l'entrée au dessert.
11h-12h30.
RTL vous régale.
Bienvenue si vous arrivez sur RTL. RTL vous régale. Et juste avant de passer à table, on vous rappelle que ce matin, on évoque les poissons blancs et la poire, association qui fonctionne très très bien. Un mot sur la poire et ses associations gourmandes, Nathalie.
C'est vrai que la poire, elle se marie aussi bien avec du sucré qu'avec du salé, hein, de l'entrée au dessert. Alors par exemple, en salé, il y a quelques idées pour vous ce matin dans RTL vous régale. Par exemple, en salade, avec quelques légumes, elle va apporter une touche de fraîcheur et d'acidité. Par exemple, avec de la betterave, on en parlait hier, c'est merveilleux avec la poire. Et puis aussi en garniture d'une viande ou d'un poisson coupé en dés, puis sauté ou compoté. Et puis rôti, elle va vraiment adoucir une volaille. Moi, j'ai une petite recette express pour vous ce matin. C'est une pintade aux poires que je fais souvent. C'est une pintade qui est revenue dans un mélange d'huile et beurre avec du sel, beaucoup de noix de muscade râpée. J'ai une fixation sur la noix de muscade. Et puis des poires conférences épluchées, coupées en quatre et le tout 40-45 minutes en cocotte. C'est super bon. Vous pouvez aussi l'essayer nature, avec du jambon cru ou bien associé à un fromage de brebis et évidemment avec des fromages à pâte persillée. Ça, c'est une alliance réussie, toujours réussie. Et puis, vous avez aussi évidemment en sucré. Alors, pochée, ça c'est un classique parce qu'elle se marie avec plein d'arômes différents comme la vanille, les zestes de citron ou d'orange, des épices comme la cannelle, la cardamome, la badiane, le gingembre. Alors, selon vos goûts, vous allez adapter évidemment la quantité de sucre dans le sirop ou alors vous déclinez avec du thé infusé ou encore encore, bien sûr, du vin et puis une crème anglaise, une boule de glace. Et je pense forcément à ce grand classique de la poire Belle-Hélène, une invention d'Escoffier avec cette sauce au chocolat et sa glace vanille complètement irrésistible. Évidemment, en tarte ou en gâteau, en crumble avec des fruits secs, des noisettes, des noix, des amandes, il y a plein de choses. Et elle se marie aussi avec la pomme, la banane et la framboise, évidemment.
Jean-Sébastien.
J'ai le droit de m'énerver.
Alors ça, vous êtes là pour ça.
Il y a un truc qui est apparu il y a quelques années qui s'appelle le nashi.
Ouais,
qui c'est une poire japonaise qui est une petite poire. Alors, il y a plein de chefs qui s'en sont emparés et puis on en trouve maintenant un peu partout. Ça devient agaçant. Je vous le disais, il y a une association qui s'appelle les croqueurs de poire qui essaye de sauvegarder tous les poiriers et qui plante des poires chez des particuliers. Si vous avez envie d'accueillir une vieille variété de poire dans votre jardin, si vous
j'ai
en avez
très
un.
Peur.
Non, mais. C'est hyper important parce que la biodiversité, elle est là, elle est dans ce genre d'action des particuliers. Le nashi, pour moi, ne sert à rien. C'est une poire qui a un goût de pomme, donc vous me dites l'intérêt, hein, c'est, vous n'avez qu'à manger des pommes. Hein. C'est un truc qui vient de l'autre bout du monde, ça n'a strictement aucun intérêt. Il y a un moment, il faut quand même faire avec ce qu'on a. On a des produits qui sont extraordinaires, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs de l'exotisme quand cet exotisme ne sert à rien.
Eh bien, vous avez raison de le dire. Voilà, quand c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a qu'un seul nashi qui a droit de citer dans cette émission d'ailleurs. C'est le Parmentier. Alors, une info sur la poire. La poire doit être consommée...
C'est une tragédie aujourd'hui.
Oui,
vous,
la poire doit être consommée en parfait état.
Oui, parce que lorsqu'elle est abîmée, elle va contenir une moisissure dangereuse. Attention, ça s'appelle la mycotoxine. Et c'est une moisissure qui sécrète un poison qu'on appelle la patuline. Alors, c'est des effets secondaires un peu pénibles. Hein. Irritation de la peau.
Faites gaffe, hein. Vraiment.
Non,
c'est...
mais vraiment, ouais. Je ne blague pas du tout. Nausées, troubles des reins et du foie. Alors, tout simplement, comment la repérer, évidemment? Si une poire présente une partie qui commence à moisir ou des taches marron foncé, vous ne la consommez évidemment pas. Vous la jetez parce que même une cuisson longue de plus d'une heure
ça tue
ne
pas
va
le truc.
Pas éliminer la patuline. Donc on arrête tout de suite, autant vous le dire.
Voilà, consommez des poires bio aussi tant qu'à faire.
Bah oui.
Même si elles sont, c'est vrai, un petit peu plus chères.
Si on veut
parfois.
Les croquer avec la peau, c'est surtout ça
c'est
l'intérêt.
Vrai. Allez, la recette du jour sur RTL.fr.
Des poires rôties en croûte et chapelure aux épices, hyper facile. Hein. Alors, c'est des poires commises ou conférences, de l'eau, du citron, de l'eau de source c'est mieux tant qu'à faire, hein, du citron, du sucre, un peu de beurre, de la chapelure de pain rassis et des épices à pain d'épices. Vous savez, ces fameux mélanges qu'on trouve déjà tout préparés. Vous retrouverez évidemment cette recette sur la page de l'émission sur RTL.fr.
Et puis la poire, c'est un bonheur. Ça apporte des vitamines, ça apporte des fibres, ça stimule le fonctionnement de la flore intestinale. Il y a de la vitamine C, il y a de la vitamine B, il y a de la provitamine A.
Ça nous emmène très bien sur le trône.
Il y a des antioxydants, il y a des flavonoïdes. C'est excellent pour la santé, la poire. Et en plus, c'est un des meilleurs fruits qui soit.
Je vais vous dire un truc, la poire, ça impose le respect.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Et vous savez que dans RTL vous régale, on aime bien tenter de coller, enfin d'essayer de coller Jean-Sébastien et Nathalie. Ils sont joueurs, ils sont taquins, mais vous l'êtes aussi, n'est-ce pas Ludovic?
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue sur RTL, Ludovic. Merci. Vous êtes à Angers.
C'est ça.
Dans le Maine-et-Loire.
Exactement.
Et vous arrivez avec une petite question, j'ai envie de dire, de derrière les fagots.
Oui, à peu près, ouais.
Alors ça donne quoi?
Voilà, est-ce que vous connaissez la Bijane?
Oui.
Ah,
oui.
Voilà.
Alors, vous avez une autre question?
Non.
C'est quoi la Bijane, Nathalie?
Je crois que c'est une sorte de tranche de pain trempée dans du vin rouge. On fait trempette avec.
Alors,
exactement,
c'est soit
ouais.
Une tranche de pain trempée dans du vin rouge, soit du vin rouge avec un peu de pain dedans. Ça dépend voilà. à quel degré on met le vin.
Mais c'est reconstituant en tout cas.
Voilà, et puis on met du sucre.
À la base, moi, mes grands-parents, je m'en rappelle, mettaient du pain coupé en morceaux, le faisaient griller,
ouais.
Le mettaient dans un bol, recouvraient le bol avec du vin rouge,
ouais.
Le pain absorbait, rajoutaient du sucre, et ils buvaient ça le soir.
Moi, je me pose une question, c'est
en fait.
d'où vient le mot, le terme Bijane?
Alors là, j'en ai aucune idée.
Eh ben voilà.
Là, et en fait, vous me posez une colle. Là.
Je suis là pour ça.
C'est deux fois Jeanne.
C'est quelque chose qu'on servait généralement en goûter aux vendangeurs parce que c'est très reconstituant. Forcément, vous avez du pain avec du
pain, du pinard et du sucre.
Du pain, du vin et du sucre,
ça envoie.
C'est sportif.
Par contre, on peut rajouter des fruits rouges, fraises, framboises, groseilles.
Et ceci dit, c'est fin délicieux. Hein. Voilà. C'est un truc... C'est
faut bête pas en abuser, je pense.
Comme tout, mais c'est avec modération, vous savez. Voilà. C'est l'intérêt.
La Bijane, de... Alors, c'est vraiment spécifique de chez vous?
Alors, moi, j'ai...
C'est l'Anjou.
Oui, c'est, ouais, ouais, à la base, c'est Angevin. Après, ça, c'est sur la région de la Touraine aussi. A priori, ils connaissent un petit peu. Le Loir-et-Cher aussi, apparemment. Ouais, je pense que c'est des régions de vendanges, hein, de vignes.
Moi, j'aime bien qu'on parle à la découverte de voilà, ces petites spécialités
et,
régionales.
Et moi, je me rappelle, étant enfant, alors je ne sais pas si c'est un souvenir, mais il me semble que mes grands-parents, vu que nous, on n'avait pas le droit d'en boire quand on était trop petits,
bah oui,
nous faisaient pareil, mais avec du lait et du pain.
D'accord, ils remplaçaient le vin par du lait.
Voilà, c'est ça.
Ce qui est quand même nettement moins drôle tout de suite. Hein.
Ouais.
Il faut l'avouer. Hein, voilà. C'est dur l'enfance, c'est dur. Franchement, c'est moche.
On n'avait pas de chance. Hein.
Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va vous envoyer un guide du routard ainsi qu'une montre RTL, Ludovic. Homme ou femme? Homme ou femme, la montre?
Une montre femme.
Très bien, on vous envoie ça fera plaisir à madame.
Voilà.
Que vous embrasserez pour nous, on vous souhaite un très bel été à l'écoute d'RTL.
Merci. Au revoir, Ludovic.
Au revoir, vous, bonne journée.
Quand on prend les synonymes de Bijane, on est dans les visiteurs, parce qu'entre la trempinette, la soupe à la pie et la soupine.
Conseille mon cheval, je sors.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
RTL vous régale. Dans la dernière demi-heure de cette émission, je vous promets des choses assez exceptionnelles. Je vous promets l'histoire d'un plat, l'histoire d'un petit gâteau qu'on appelle...
Le cannelé.
Et vous nous ferez rêver, Nathalie Elal. Je vous promets également un maître chocolatier qui se trouve en Isère. On parlera de la maison Bonnat, la plus ancienne maison de chocolat de qualité depuis 1884. Mais avant tout cela, mesdames et messieurs, je voudrais que, comme chaque jour, nous fassions un accueil chaleureux à Jean-Sébastien Petit de Mange, qui nous fait voyager, qui nous fait partager ses escales de rêve. Il a fait le tour du monde et des endroits l'ont marqué, des souvenirs se rappellent à lui, des souvenirs de régal absolu, parfois de grandes maisons, parfois de toutes petites tables, parce que vous pouvez vous satisfaire
parfois
de petites choses.
Absolument, heureusement, Dieu merci.
Parfois la France profonde, parfois New York.
Voilà.
Et aujourd'hui, nous y sommes.
Exactement, parce que pendant, quand j'étais dans mon enfance et dans mon adolescence, pendant longtemps...
J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York.
Alors, j'ai eu la chance d'y partir pour y créer le guide du routard. Sur cette ville il y a quelques années. Du coup, pendant 6 semaines, j'ai arpenté cette ville absolument sublime pour tenter d'en tirer la substance. New York, ceux qui n'y ont jamais posé les pieds la connaissent de toute manière déjà par le cinéma, par les séries télé, par la musique, par la littérature. New York, c'est une véritable machine à rêve. C'est une ville diverse, frénétique, électrique, magnétique, magique, vertigineuse, inventive, intensive. Les adjectifs se bousculent pour la décrire, mais c'est la ville des extrêmes et des superlatifs. New York, c'est la mégapole la plus peuplée des États-Unis. C'est la plus visitée aussi, avec sa mythique skyline. Et où à l'emplacement depuis quelques mois maintenant des défuntes Twin Towers émerge la silhouette à facettes du One World Trade Center qui est aujourd'hui le plus haut gratte-ciel d'Amérique du Nord et qui est une pure merveille d'architecture.
On a un peu l'impression, je vous interromps, que la visite de New York, ça se résume souvent à Manhattan.
Alors c'est vrai que les touristes se sont longtemps limité à l'île de Manhattan. D'ailleurs, à l'origine, il faut savoir qu'en langue algonquienne, on disait Manhattan, l'île aux collines. La ville, elle est devenue la nouvelle Angoulême en 1524, nouvelle Amsterdam ensuite, avant de devenir New York. Et c'est la ville où tout se crée, où tout se passe. Et de Manhattan, aujourd'hui, eh bien, de plus en plus, on va découvrir Brooklyn, notamment, qui devient presque plus touristique que Manhattan. Parce que là-bas, il y a une révolution qui est en marche, une révolution écologique. Moi, j'y ai découvert, la dernière fois que j'y suis allé, des jardins urbains qui ont envahi les immeubles de Brooklyn. Il y a des potagers sur tous les toits, dans tous les petits lopins de terre qu'il y a au pied des immeubles. On se partage des terrains et on se partage des légumes et des fruits qui sont récoltés de manière quotidienne, printemps, été, au début de l'automne. Et on est loin de l'image rétrograde des États-Unis actuellement véhiculée.
Alors, c'est très bien, Jean-Sébastien, mais on a aussi coutume de dire que New York, c'est pas l'Amérique.
Je vous le confirme. Et aujourd'hui, New York, qui est véritablement la capitale gastronomique du pays. On mange healthy, on mange locavore, comportement alimentaire qui lui est né à San Francisco et qui
privilégie la consommation d'ingrédients locaux. C'est un peu l'équivalent de nos circuits courts. Mais moi, la première fois que je me retrouve à Manhattan, la vraie émotion, le vrai choc, ça a été l'expérience du steakhouse. Alors, lorsqu'on parle de ce style de maison, quand on est à Manhattan, il y a quelques années, on pensait forcément à une maison, c'est Gallagher's. Gallagher's, c'est une maison qui a été ouverte en 1927 sur la 52e rue. Vous imaginez, deux ans après, ils se prennent la Grande Dépression sur la tête.
Et ils survivent.
Mais Gallagher's survit, même à la Prohibition. Et c'est en 1964, en fait, que Gallagher's devient un mythe. On y a installé cette incroyable chambre froide à l'entrée, qui est en vitrine de Gallagher's. Et on a là tous les morceaux de viande qui maturent tranquillement avant d'arriver dans les assiettes. C'est tellement étonnant que moi, la première fois que j'y suis allé, j'ai cru que c'était des reconstitutions, j'ai cru que c'était du décor, alors que ce sont des vrais trains-côtes de bœuf, des vrais sirloins, des vrais... C'est impressionnant. Des vrais T-bone steaks. Et tout cela est incroyablement bon parce que le bœuf a maturé à sec en chambre froide pendant 21 jours, parfois plus. Cette vitrine est devenue légendaire et cette combinaison du vieillissement entièrement naturel avec la cuisson à la perfection sur des charbons hickory, et je me suis retrouvé devant une viande que je n'avais jamais dégustée en France. Alors bien sûr, il y avait l'effet voyage, il y avait l'effet décor, il y avait l'effet de l'ailleurs, mais j'ai eu l'impression de me sentir à un moment dans une toile d'Edward Hopper, comme Noctambule, qui a été fait en 1942, qu'on a vu à la rétrospective de 2012 au Grand Palais. Et au-delà de la jutosité, de la tendreté, du persillé de cette viande qu'on m'a fait découvrir, eh bien, je me suis rendu compte qu'il, d'abord, il y avait le respect porté au produit et que l'attention qu'on avait dans sa conservation et dans son affinage était un élément aussi important que l'attention qu'on devait avoir à ces bêtes pendant l'élevage, dans leur alimentation et dans leur bien-être. J'avais 24 ans, le plaisir pour moi était total, mais mes repères ont totalement été bouleversés en ce qui concerne la qualité des produits. Je crois que ça s'appelle tout simplement l'expérience.
My little Pablo.
Le rêve de Jean-Sébastien Petit-Demange à New York. On a beaucoup parlé de poire aujourd'hui dans cette émission. Poire, Big Apple, la grosse pomme. On sait pourquoi ça s'appelle la grosse pomme ?
Oh, y a plein d'explications.
La plus courue.
Stéphane Bern en a parlé, je ne sais plus quand, sur l'antenne de RTL le matin. Alors, moi, l'explication, c'est justement, c'est les jazzmen qui avaient la trouille quand ils arrivaient sur la scène.
Il y avait la pomme
du côté de Brooklyn et ils avaient la pomme.
La pomme d'Adam.
Qui les angoissait de ne pas pouvoir souffler dans leur instrument ou de ne pas pouvoir chanter juste comme le feu Pavarotti là.
Dans un instant,
ça c'est Pavarotti quand même. Hein.
Le carnet d'adresses d'RTL vous régale. Aujourd'hui, on a eu envie de s'intéresser à ce petit carré de chocolat noir que vous dégustez chaque jour avec votre café. Nous aurons au téléphone Stéphane Bonnat, il est maître chocolatier en Isère. Et vous allez l'entendre, c'est un véritable aventurier du cacao. Parce que c'est vrai, le cacao, avant d'être une tablette, est une aventure. On en parle avec lui dans quelques instants.
11h, 12h30.
RTL vous régale.
Chaque jour, nous vous ouvrons également notre carnet d'adresses dans RTL vous régale. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce petit carré de chocolat noir que vous aimez tant. Bonjour Stéphane Bonnat.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Vous êtes maître chocolatier. Nous sommes à Voiron, en Isère, chez vous. Alors, la maison Bonnat, c'est sans doute une des plus anciennes maisons de chocolat de qualité depuis quoi ? 1884 ?
Depuis 1884 pour l'activité chocolaterie, mais bien avant pour ce qui est de la confiserie et de la licoristerie.
Stéphane Bonnat, l'histoire du chocolat, c'est une aventure, on va en parler, et l'histoire est longue. Il faut savoir que autrefois, le chocolat était consommé comme un ingrédient, mais pas comme un produit.
Exactement.
Ça date quand l'invention du chocolat tel qu'on la connaît aujourd'hui en fait ?
Alors, le premier dépôt de brevets ou de marques remonte à 1880. C'est un certain monsieur Linz qui a permis de transformer ce produit qui était très amer et très astringent en quelque chose de délicieux. Allez, pour la petite histoire...
Oui, c'est souvent ça vient d'une erreur et dans son cas, c'est pareil.
Exactement. Pour la petite histoire, il semblerait qu'il soit parti en week-end de chasse en oubliant d'arrêter une machine. Et lorsqu'il est revenu, il a cru que le cacao qu'il broyait avec du sucre était fichu. Et en fait, il avait transformé ce mélange de deux produits extraordinaires en quelque chose de très très bon à manger, ce que personne n'avait réussi à faire jusque-là.
Voilà, il avait tout simplement oublié d'éteindre sa machine à concher, voilà, qui sert à fabriquer le chocolat. Vous, vous plaisantez pas avec le chocolat, Stéphane Bonnat. Vous êtes un passionné. C'est vrai que les gens qui font du chocolat aujourd'hui, souvent, sont des passionnés. C'est pour ça que vous avez fait le choix de sourcer, de sélectionner vous-même vos fèves de cacao.
Oui, alors ça, c'est une démarche familiale qui est quand même relativement ancienne. Si ce n'est que, par exemple, mon père, lui, faisait venir ses partenaires planteurs en France pour leur faire découvrir l'importance, par exemple, de la fermentation et du séchage. En ce qui me concerne, ben, je me déplace, on va dire, pendant 5 mois dans l'année. Je pars de manière régulière aller visiter les plantations avec lesquelles nous travaillons.
On va où dans c'est où les principales plantations dans le monde? Je pense, moi, comme ça, spontanément, je pense à l'Amérique du Sud, je pense un peu aux Antilles.
Oui, c'est tout le long de la ceinture équatoriale, à quelques exceptions climatiques près, tout simplement puisqu'il faut que le cacao ait une température minimum de 20 degrés avec énormément d'humidité. Donc ça exclut par exemple l'Isère où on a des températures en négatif.
Les fèves chez vous, elles viennent d'où? Alors, du Pérou, du Mexique, du Venezuela, du Brésil, des choses comme
Oula,
ça?
Oula, nous avons 56 provenances de cacao. Donc, nous sommes présents sur pratiquement la totalité de la planète, en tout cas en ce qui concerne la recherche des cacao.
Ah, et vous ne voyagez qu'avec une seule personne, c'est Nestor.
Exactement. Alors, Nestor n'étant pas une personne, Nestor étant le couteau qui me sert à couper les cabosses afin que je puisse goûter les fèves. Et c'est un de nos amis planteurs qui lui avait fan de Tintin, qui avait décidé de baptiser mon couteau Nestor il y a ça une quinzaine d'années. Et en fait, le nom est resté.
Comment ça se passe d'ailleurs? Vous goûtez des fèves? Moi, je n'ai jamais goûté une fève de cacao. Ça goûte quoi? C'est amer, non?
Non, pas du tout. Ah. Alors, bon, en fait, il y a quelque chose d'extraordinairement bon que l'on appelle le mucilage. C'est la pulpe qui est autour des fèves à l'intérieur de la cabosse et qui va receler tous les parfums délicats que je vais m'appliquer à trouver lors de la torréfaction et du broyage du cacao.
Et donc, en fait, la qualité de la fève, sa provenance, etc., détermine sans doute forcément la qualité et le goût du cacao que vous allez produire?
Oui, surtout qu'il y a une erreur commune qui consiste à dire qu'il n'existe que 3 types de cacao qui sont illustrés comme le Criollo, le Trinitario et le Forastero, alors que dans la vraie vie, il en existe plus de 1700 différentes.
Ouais, carrément.
Donc ça fait un sacré décalage.
Nathalie.
Stéphane Bonnat, bonjour. Est-ce que vous êtes toujours champion du monde pour vos tablettes? Je crois savoir que vous avez reçu quelques prix, hein, notamment il y a 2 ans, il y a 1 an, c'est ça?
Cette année, oui, nous sommes pour l'instant la médaille d'or des ce que l'on appelle les International Chocolate Awards. Ils sont des compétitions qui se déroulent à travers le monde, d'abord dans chaque pays, afin d'élire, par exemple, le meilleur chocolat de Suisse, d'Italie, ou du Venezuela ou de France. Ensuite, par continent, et les vainqueurs se rencontrent à l'occasion d'une finale. Et à titre purement indicatif, nous avons remporté la médaille d'or parmi 1723 produits.
Bravo à vous. Et je voulais vous souhaiter un très bon anniversaire parce que d'après mes sources, c'est votre anniversaire
c'est
aujourd'hui.
Exact.
Vous savez, Stéphane, ce que vous venez de dire, vous ne voyez pas la tête de Jean-Michel Zeka dans ce studio, mais vous avez cité tous les pays qui font du chocolat sauf la Belgique et Jean-Michel est totalement désespéré.
Non, mais moi, je ne suis pas... Voilà, je ne pousse pas le chauvinisme.
La Belgique,
d'autant que je n'y connais rien en cacao.
Le seul truc que je connais, c'est le pays du chocolat. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Pierre Marcolini, qui est un ami.
Mon camarade Pierre.
Qu'on aime beaucoup aussi.
Exactement, voilà. Qui fait des produits extraordinaires.
Je peux vous dire qu'il fait des produits extraordinaires et des fêtes extraordinaires aussi. Lui, sa spécialité, c'est la fève du samedi soir.
Exactement.
On vous embrasse, Stéphane Bonnat. Merci beaucoup. La Maison Bonnat se trouve à Voiron, en Isère. Et toutes les infos, c'est sur la page de l'émission et sur RTL.fr.
11h, 12h30,
RTL vous régale.
Et Nathalie Elal est à la pâtisserie ce que Stéphane Bern est à Versailles. Aujourd'hui, l'histoire avec un grand H d'un petit gâteau avec un seul N,
oui.
Le cannelé.
Oui, absolument. Alors, selon la légende, les cannelés seraient nés lors du déchargement des navires sur les quais de Bordeaux. Et on dit qu'ils étaient confectionnés avec les restes de farine récupérés dans les cales. Mais il y a une autre version qui raconte qu'ils auraient aussi vu le jour dans le couvent des Dames de l'Annonciade, aujourd'hui le couvent La Miséricorde, à Bordeaux, au XVIIe siècle. Et on sait à quel point les religieuses qui s'ennuyaient fort dans les couvents pouvaient être de bonnes pâtissières. Mais bizarrement, on ne trouve pas trace de ce cannelé dans les dictionnaires de l'Ancien Régime. Alors, à l'époque, se vend quand même à Bordeaux une spécialité qui est connue sous le nom de cannole et orthographiée cannolé. Quelle forme avaient ces gâteaux ? Mystère. En tout cas, il est tellement apprécié que des artisans se sont spécialisés dans sa fabrication. Ils portent le nom de cannoliers. Ils sont si puissants et si bien organisés en corporation qu'ils parviennent à empêcher les pâtissiers de les concurrencer. Sous la Restauration, il y a de grands pâtissiers et chocolatiers suisses qui arrivent à Bordeaux et les cannoles tombent en désamour. Peut-être qu'ils sont jugés trop rustiques, on ne sait pas trop. Et puis un beau jour, soit avant la Grande Guerre, soit entre les deux guerres, nul ne sait, la cannole réapparaît sous sa forme actuelle de cannelé. Un génie anonyme qui avait soit conservé, soit remis la main sur la recette de ses lointains prédécesseurs, la remet à la mode et l'améliore en ajoutant à sa pâte rhum et vanille. Et il lui donne au passage sa forme actuelle, une forme bien spécifique, il faut le dire, qui évoque le style dorique réservé aux édifices militaires ou religieux, mais jusque-là jamais utilisé en pâtisserie. Sa couleur brune, qui est due à la caramélisation du gâteau au contact du moule, souligne l'austérité de sa silhouette. Et le moule dans lequel il cuit est lui-même très esthétique. Et d'ailleurs, il est l'objet d'une querelle tenace entre les partisans du moule en cuivre et ceux qui estiment que l'aluminium, voire le silicone, remplissent tout à fait leur office. Entre-temps, le cannelé ne s'appelait toujours pas cannelé. Ce n'est qu'au milieu des années 80 qu'une confrérie du cannelé de Bordeaux fut créée et supprima le deuxième N du nom afin de mieux affirmer son identité. L'appellation cannelé devint alors une marque collective déposée à l'Institut national de la propriété intellectuelle et le cannelé connut dès lors un succès fulgurant. C'est vous dire, 10 ans après le dépôt de l'appellation, on comptait 800 fabricants en Aquitaine et 600 en Gironde. L'estrie de ce délice croustillant et moelleux à la fois, parfumé d'arômes exotiques et confectionné par des mains dévotes, ont décidément de quoi susciter des vocations pâtissières et religieuses.
Voilà pour l'histoire du cannelé signé Nathalie Hallal. Je retiendrai une chose, c'est que vous nous en aviez promis, je n'en vois guère.
Il faut être patient, Jean-Michel, tout vient à point à qui sait attendre.
À l'inverse de ces petits biscuits sablés délicieux,
oui,
emmenés par notre collaboratrice Eva.
Bravo,
ça
Eva.
S'appelle comment, Eva ?
Ça s'appelle les gorabiès.
C'est égyptien.
C'est une recette de ma grand-mère, Mamie Nona.
On l'embrasse fort.
Merci.
C'est une tuerie, ce truc-là, vraiment.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Voilà, je voulais qu'on termine RTL vous régale aujourd'hui par essayer de trouver une solution au problème de Michel qui nous a soumis son problème. Elle nous raconte qu'elle a un vieux poirier, on a beaucoup parlé de poire aujourd'hui, qu'elle a un très vieux poirier dont la variété s'appelle Comtesse de Paris. Elle nous explique que quand la poire tombe, elle est dure. Et elle vous demande si vous avez une solution pour la faire mûrir.
Moi, j'ai une réponse pour faire mûrir les poires en général. En fait, il suffit d'enfermer la poire ou les poires dans un papier marron, vous savez, qui vient de chez le primeur, mais avec des pommes et des bananes. Ou une pomme et une banane, ça suffira. Parce qu'en fait, ce sont des fruits qui dégagent de l'éthylène.
Vous mettez un petit Scooby-Doo aussi.
Oui, pourquoi pas, si vous voulez, puis Sacha. Parce que ces fruits dégagent de l'éthylène et c'est une substance qui active le mûrissement des autres fruits.
Très bien, sauf que la Comtesse de Paris, Jean-Sébastien,
alors,
c'est plus compliqué.
C'est une très vieille variété de poire et a priori, je dirais que son poirier a été greffé. Alors là, je parle sous le couvert du site des croqueurs de poire, qui est l'association qui protège les vieux poiriers. A priori, ça devient une poire pierreuse à partir du moment où le poirier Comtesse de Paris a été greffé.
Voilà, donc
après, il faut voir si...
Ça sert à rien de la remettre sur l'arbre, elle ne mûrira pas plus.
N'essayez pas de la raccrocher sur l'arbre.
Ça ne sert à rien.
Non.
Voilà, on espère qu'on a répondu à la question de Michel. On a pris, je l'espère, autant de plaisir que vous à vous présenter cette émission. RTL vous régale, revient demain et nous terminerons par cette citation de Confucius qui a dit « Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson ». À demain 11h. Vous écoutez RTL, il est midi et demi.